le monde il est beau, tout le monde y réagit.
Dans la fin du texte du billet précédent, il y est dit qu'être considéré comme conservateur peut en réalité procéder d'une démarche progressiste qui est à discréditer. Et ce constat amène à considérer l'usage qui est fait des adjectifs dans un monde en constante révision de l'utilisation et du sens des mots, dans un contexte médiatique essentiellement manipulateur. Ainsi, sommes-nous passés de la mondialisation heureuse des années 80 à la mondialisation économique, devenue réalité indépassable à peine une décennie plus tard. Ces glissements sémantiques pourraient être tenus pour négligeables s'ils ne contribuaient à installer une confusion croissante dans le champ du discours politique où les qualificatifs de droite à gauche ne servent qu'à dissimuler des objectifs finalement identiques, ceux-ci désormais qualifiés d'inéluctables pour tenter de faire oublier leur disqualification par les faits confirmés d'une économie désormais en plein marasme. Dans le champ de ces mensonges institutionnalisés qui se présentent comme des progrès, l'évasion fiscale devient optimisation et l'austérité gage d'une aléatoire reprise dont on ne sait même plus s'il faut vraiment la souhaiter. Ainsi, le qualificatif d'inéluctable devient progressivement le qualificatif exclusif de l'espoir progressiste et le champ de l'esprit se réduit d'autant à la chansonnette des promesses irréalisables et de plus non revendiquées par toute une partie des populations qui n'ont pas les mêmes vues sur un principe de base d'évolution. Ce qui nous amène à considérer qu'il ne faut jamais oublier de considérer l'usage du qualificatif. Celui-ci peut procéder d'une démarche de disqualification inavouée d'un objectif en vue d'obtenir l'assentiment pour son opposé non désigné. Il peut également parvenir, de la même manière, à criminaliser la contestation, titre de l'article écrit par Riccardo Petrella dans le contexte des affrontements à Gênes et paru dans Le Monde diplomatique en août 2001.
L'acharnement des gouvernements contre les opposants à la mondialisation libérale s'explique par l'ampleur croissante de son rejet dans les opinions publiques, d'où la tentative de caractériser les contestataires comme génétiquement violents, à la manière de l'URSS d'antan où les dissidents étaient censés relever de l'asile psychiatrique. Les actions spectaculaires par lesquelles s'est parfois traduite la contestation de la mondialisation ne doivent pas conduire à sous-estimer l'importance des autres formes d'opposition, en profondeur celle-là, menée par les mouvements sociaux et les syndicats tant au sud qu'au nord. Paysans indiens en lutte contre la biopiraterie de Monsanto, mouvement des sans-terres au Brésil, marche mondiale des femmes, communautés indigènes, lutte contre les privatisations en Amérique du Sud, contre les licenciements de convenances boursières, pour la défense des travailleurs menacés par les délocalisations d'entreprises, etc. À quoi s'ajoutent les actions des grandes organisations non gouvernementales ? Greenpeace, Amnesty International, Oxfam, Médecins Sans Frontières, etc. Et celles des multiples associations pour le commerce équitable, pour la finance éthique, pour l'annulation de la dette extérieure du tiers-monde, pour la taxation de la spéculation financière. Jusqu'au milieu des années 90, les manifestations contre la mondialisation libérale, obéissant aux tables de la loi du capitalisme de marché, se sont rarement transformées en conflits violents entre la police et les manifestants. En revanche, depuis quelques années, les affrontements sont devenus une sorte de rituel, apparemment inévitable, selon un scénario que l'on dirait écrit d'avance. Chaque fois, les forces de l'ordre des villes où va se tenir le grand rendez-vous transforment les lieux de passage et de travail des participants officiels en une zone de haute sécurité, sous le contrôle de milliers de policiers anti-émeutes et, pratiquant une sorte de surenchère préventive, prennent des mesures draconiennes d'interdiction d'accès aux périmètres ainsi protégés, voire aux villes elles-mêmes, comme ce fut le cas à Québec et de manière encore plus caricaturale récemment à Gênes. Or, chaque fois l'effet redouté, ne devrait-on plutôt dire attendu et voulu, s'est trouvé au rendez-vous. Les affrontements ont eu lieu et la répression a été de plus en plus dure, particulièrement à Prague, à Nice, à Québec, à Göteborg, à Barcelone, jusqu'à faire un mort et plus de 600 blessés à Gênes. Les témoignages de brutalité, voire de sévices sur des manifestants ayant recours à des formes non violentes de désobéissance civile, alors que la police laissait faire les groupuscules de casseurs professionnels, sont particulièrement accablants, au point que de nombreux représentants d'ONG, admettent avoir perdu leur virginité démocratique, c'est-à-dire leur croyance dans la possibilité de lutter démocratiquement dans des pays démocratiques. Pourquoi un tel durcissement de la part des autorités conduisant à la réduction, voire à la suspension, même temporaire ou locale, du droit de manifester? Comment expliquer que des militants de milliers d'organisations du monde entier, expression de traditions pacifiques ou tiers-mondistes, d'engagements écologiques, d'idéaux religieux et éthiques diverses, et qui luttent depuis longtemps pour un monde plus juste, plus solidaire, plus démocratique, plus respectueux de l'environnement, soient devenus des indésirables aux yeux des gouvernements et soient traités comme des hordes d'envahisseurs, casseurs, dévastateurs? Il y a, semble-t-il, deux raisons principales. La première est liée au succès obtenu par les mouvements d'opposition à la mondialisation. Mise en échec en octobre 1998 du projet d'accord multilatéral sur l'investissement et en décembre 1999, fiasco du cycle du millénaire de l'OMC à Seattle. Pour les dirigeants des pays développés, il s'est agi de deux défaites hautement symboliques car affectant deux piliers de cette mondialisation-là, les libertés de la finance et du commerce. La défaite de l'AMI a été d'autant plus cuisante qu'elle résulte de la décision du gouvernement d'un pays phare du capitalisme, la France, sous la pression précisément de manifestations populaires. La débâcle de Seattle a également constitué un événement intolérable. Elle a montré au grand jour que la majorité des gouvernements des pays dits « en voie de développement » partageaient nombre des critiques des opposants du Nord à la mondialisation actuelle. Et c'est grâce à l'action de ce que l'on a appelé par la suite « le peuple de Seattle » que ses gouvernements ont eu enfin le courage de dire non à la poursuite de négociations auxquelles, par faiblesse, ils se seraient autrement résignés. Ces deux victoires ont discrédité, sur le plan éthique, les principes fondateurs et les pratiques des seigneurs du capital et des marchands. En revanche, elles ont rendu tout à fait crédibles les luttes en faveur d'une autre mondialisation. Inacceptable pour les pouvoirs en place, un tel résultat est devenu un facteur puissant de la radicalisation de leur politique de répression de la contestation pacifique. Ne pouvant réduire cette dernière à une agitation folklorique, se trouvant dans l'impossibilité de reconnaître les responsabilités des forces de l'ordre dans l'explosion de la violence, gêne constituera désormais une étude de cas de la provocation policière, et enfin incapable et pour cause de démontrer que l'opposition à la mondialisation actuelle est scientifiquement non fondée, leur restait seulement une solution, criminaliser les contestataires. Ce faisant, ils espéraient légitimer leur propre violence et délégitimer l'action d'une large partie des mouvements sociaux et des ONG, dont, par ailleurs, ils tentent de remettre en question la représentativité. La seconde raison est liée à un aspect central et spécifique de la mondialisation. L'affirmation des États-Unis comme seule puissance hégémonique sur les plans militaires, technologiques, économiques, politiques et culturels. Symbole du capitalisme global contemporain, les États-Unis sont les porteurs d'une logique d'empire et d'un ordre planétaire englobant sous leur houlette les situations, les problèmes et les perspectives des différentes sociétés du monde. Les luttes ont mis en évidence que la mondialisation de ces 20 ou 30 dernières années a été et demeure avant tout le résultat de la puissance militaire et économique américaine, ainsi que des changements socio-économiques et culturels produits par les États-Unis qui se sont ensuite répandus à des degrés différents et sous des formes diverses selon les pays, Chine comprise, dans l'ensemble du monde. Cette mondialisation consiste principalement en une américanisation idéologique, technologique, militaire et économique de la société planétaire contemporaine. Il n'a pas fallu attendre l'effondrement de l'Union soviétique pour s'apercevoir que la globalisation des marchés, des capitaux, de la production, de la consommation, etc., était un produit des États-Unis, grâce notamment à la présence mondiale de l'US Army, de l'US Navy et de l'US Air Force. Cette présence a ouvert la voie royale à la mondialisation de Coca-Cola, d'IBM, de Lewis, de Walt Disney, de Ford, de General Motors, d'ITT, de McDonald's et plus près de nous, de Microsoft, d'Intel, de Cisco, d'AOL, Time Warner, de Citicorp, de Walmart et de Fidelity. Dans un tel contexte, toute manifestation anti-mondialisation est perçue par un nombre croissant de dirigeants des États-Unis et de la plupart de leurs alliés comme une opposition au système capitaliste mondial lui-même et, dans la mesure où Washington est la puissance régulatrice de ce dernier, comme une opposition aux États-Unis et à leurs alliés. Il n'en fallait pas plus pour que le Pentagone et d'autres secteurs des États-Unis élaborent et répandent la théorie de la nature génétiquement violente de l'opposition à la mondialisation. Selon cette théorie, puisque les contestataires s'en prennent au système mondial en place, à ses règles, à ses institutions et à ses gouvernements légitimement élus, ils s'en prennent par voie de conséquence à la démocratie. Ce sont donc nécessairement des violents, de réels criminels contre l'ordre démocratique, en un mot, de véritables nouveaux barbares de l'ère globale. Point n'est besoin de démontrer ici l'absurdité et l'indécence de cette accusation. Ce qui est extrêmement dangereux et préoccupant, c'est qu'elle semble acceptée par la majorité des responsables politiques des pays occidentaux et par nombre de dirigeants de pays en voie de développement. On ne saurait mieux mettre en évidence la fracture que la mondialisation renforcée entre, d'une part, les seigneurs de la puissance mondiale et leurs vassaux, et d'autre part, les peuples dominés et exclus, comme s'ils ne vivaient pas sur la même planète. Diagnostic qu'a confirmé le Financial Times lui-même lorsque, dressant les bilans respectifs des deux forums mondiaux simultanés, l'un économique, l'autre social, il évoque effectivement l'existence de deux planètes, celle de Davos et celle de Porto Alegre, la première sur le déclin et l'autre sur une orbite ascendante, et n'exclut pas leur collision.
Ainsi se termine ce billet. À la semaine prochaine pour la suite de l'émission. L'équipe rédactionnelle vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine.